Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. C'est un prix interallié qui nous rend visite aujourd'hui, sans aucun rapport avec France Inter, qui n'est jamais hostile à une petite alliance, mais non, il s'agit d'un beau prix littéraire, d'une certaine tenue dont la liste des lauréats, depuis 1930, témoigne de la grande qualité de Malraux à Karine Thuil, en passant par Antoine Blondin, René Fallet, Philippe Dian et autres Raphaël Billedoux. Et un prix largement mérité pour Mathieu Palin, notre invité, auteur donc du dernier interallié, ne t'arrête pas de courir. Avant d'ouvrir le livre, auto-centré comme je le suis, je me suis d'abord dit que forcément Mathieu avait entrepris sans m'en avertir, et sans doute par délicatesse, de raconter ma vie, moi qui cours tellement que je n'ai même plus le temps d'entendre ceux qui me conseillent de ralentir un peu. Mais non, ma vanité dut-elle en prendre un coup, c'était d'un athlète de haut niveau dont il s'agissait. Toumani Koulibaly, champion de jour, cambrioleur la nuit, dont Mathieu reconstitue l'histoire façon puzzle, en un troublant chassé-croisé dans lequel ils mêlent leurs deux destins respectifs sur ce socle commun de banlieue et d'amour du sport de haut niveau. Mon tout donne un livre passionnant, remarquable même, et qui vous donnera des ailes en ces temps de semelles plombées. Pop, 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 c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Gaulle.
Et bonjour Mathieu Palin.
Bonjour.
Bienvenue dans Pop, pop, pop.
Merci.
Vous êtes content d'être là ?
Super.
Mathieu, vous venez nous parler de votre livre « Ne t'arrête pas de courir » qui a donc gagné le prix Interallié, le prix du roman des étudiants France Culture Télérama. Nous allons en parler longuement dans cette émission, en compagnie de Charline Roux qui nous rejoindra. Mais pour l'instant, parlons un peu de vous, aidons nos auditeurs à mieux vous connaître. D'abord, c'est bon, vous pouvez vous arrêter de courir. Nous allons passer l'heure tranquillement assis dans ce studio 521. Est-ce que l'idée de passer une heure entière assis, sans bouger, serait de nature à vous inquiéter ?
Non, 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 c'est bien, on est bien assis en plus, non, ça ne m'inquiète pas du tout.
On est confort,
on n'est
pas un hyperactif, hein. Vous êtes très sportif, je le sais.
Ouais. Bah, moi, j'aurais bien aimé ne faire que ça, me lever le matin, mettre un jogging, vivre en jogging, déjà, c'était un truc qui me plaisait quand j'étais petit. Mmh. Et puis, c'est peut-être... ça ne touche qu'une infime minorité de chanceux et de très talentueux qui arrivent à en vivre. Et moi, j'avais des qualités physiques, on va dire. J'étais plutôt bon dans pas mal de sports, mais j'étais très très bon nulle part. Mmh. Et donc, j'ai pas pu en vivre.
Mais vous courez beaucoup vous-même ? Et
ouais.
Si oui, pourquoi ? Parce que alors personnellement, quand je cours, moi, c'est pour fuir ou pour rattraper quelque chose, mais rarement pour la course elle-même. Je voudrais que le coureur que vous êtes arrive à convaincre le cycliste que je suis.
Eh ben, je vais avoir du mal en fait à vous convaincre parce que moi aussi la course à pied en elle-même, elle m'emmerde un peu. Mm-hmm. Donc je cours après un ballon en général.
Ouais. Le football. Donc.
Ouais. Tant que là j'ai 33 ans, je me dis je peux encore tenir, allez 4-5 ans, 6 ans peut-être à jouer avec des mecs qui en ont 18-19. Mm-hmm. Donc je le fais au maximum de ce que je peux faire. Mm-hmm. Et puis quand je vais courir, c'est que j'y trouve un besoin viscéral. J'ai eu une journée pourrie, il m'est arrivé un sale truc, une mauvaise nouvelle. Donc là, je vais courir. Mais sinon, en général, quand je cours, c'est derrière un ballon avec des potes autour de moi et l'idée de quand même la compétition, de pouvoir battre l'adversaire. Quoi. La course pour la course, je suis d'accord que ça me...
Donc plus un sport collectif, ouais, que totalement individuel.
Ouais. Complètement.
D'accord. Et est-ce que vous voyez un point commun entre la pratique de l'écriture et celle de la course à pied ?
Oui, parce que c'est du temps long, alors pas du sprint, mais pour ce qui est là maintenant, c'est la mode du trail, des ultra-trails, des mecs qui font des 180 km et tout ça. Et il y a un rapport un peu à l'écriture parce que là-dedans, et j'en ai fait un peu, des semi-marathons, j'ai fait un marathon pour voir. Et la clé, c'est pas de courir vite, c'est de trouver son rythme.
Ouais.
Et le rythme, c'est l'alliance entre les jambes et le souffle. Et l'écriture, c'est un peu ça. Alors, il n'y a pas les jambes, mais il y a le souffle, en tout cas, une espèce de rythmique, pour moi en tout cas, qui va un peu avec la musique aussi. C'est la petite musique qu'on a dans la tête, c'est celle qui relie le texte qu'on vient d'écrire. Et il y a un truc comme ça qui se met en place à force de courir, qui peut s'appeler l'endurance aussi dans l'écriture. Et qui permet de trouver finalement une certaine forme d'endurance et de rythme, ouais, qui nous permet d'avancer et d'aller au-delà de 100, 200, 300, 400 pages, quoi.
Et juste pour mon information personnelle, vous écrivez mieux quand vous courez ou vous courez mieux quand vous écrivez ?
Je pense que je cours mieux quand j'écris. Mm-hmm. Et je ne peux pas écrire en courant.
Bon, ça viendra. Ça viendra. Ne bougez pas, Mathieu Palin, en attendant, et cessez un peu de courir. Et puisqu'il est question de courir, comment mieux démarrer cette émission qu'avec le classique des classiques Run DMC, Walk This Way. Ghislain Fontanus, le coupe d'office. Bravo Ghislain Fontanus, notre réalisateur de légende. Nous recevons aujourd'hui Mathieu Palin pour parler de son excellent livre « Ne t'arrête pas de courir », prix Interallié 2021 et publié à l'Iconoclaste. Mais avant de nous intéresser à l'œuvre, intéressons-nous à l'homme. Pour autant qu'une distinction pareille soit si facile à faire, tant il est question aussi de vous dans ce livre, Mathieu. Vous êtes journaliste et depuis une bonne dizaine d'années, vous travaillez pour l'excellente revue 21, mais vous avez aussi collaboré aux journaux Sud-Ouest et Libération, sans parler de quelques documentaires pour France Culture. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir journaliste? Et après toutes ces années, est-ce que ça correspond à l'idée que vous vous en faisiez au départ?
Ce qui m'a donné envie, c'est un livre publié en 2005 qui s'appelle « La méprise » de Florence Obna, que je ne connaissais pas, elle en tout cas, je la connaissais malheureusement pour les raisons d'otage en Irak à l'époque, mais j'avais 16 ans et je voulais devenir professeur de PS et on m'avait fortement déconseillé parce que il y avait un embouteillage au niveau du concours et tout, on m'a dit tu vas faire 5 ans et puis finalement tu vas te retrouver là si jamais t'as pas le concours avec tes jogging et tes 5 années de STAPS, tu vas pas savoir quoi en faire. Donc je cherchais un peu un métier à faire et je lisais pas du tout de bouquins à l'époque, mais comme elle était devenue célèbre malgré elle, qu'elle est sortie, elle a écrit ce livre, je l'ai acheté et j'ai l'impression de l'avoir lu debout dans les rayons du libraire d'un coup quoi, d'une traite, parce que elle avait une capacité à me mettre là où elle était, à me montrer les gens qu'elle rencontrait, à me faire entendre tous ces gens qui sont des anonymes mais qu'elle allait voir sur le terrain, et ça m'a vraiment donné envie, et du coup derrière je me suis dit bon bah voilà, je vais essayer de faire ça.
Alors on reproche assez souvent aux journalistes d'être hors sol, coupés du terrain. Mais vous, quand vous parlez de banlieue, par exemple, vous connaissez votre sujet, puisque vous en venez de Ris-Orangis, précisément, et qu'il alimente votre travail d'écrivain, que ce soit pour votre premier roman, Sale Gosse, ou ce fameux Ne t'arrête pas de courir. Puisque le journalisme s'est témoigné, de quoi vous semble-t-il le plus important de témoigner aujourd'hui ?
Bah, paradoxalement, ici, je suis dans un studio de radio, mais je revendique quand même le retour sur le terrain. Mmh. Témoigner, c'est pas forcément, le journaliste, je suis pas sûr qu'il ait forcément besoin de témoigner, mais ne serait-ce que raconter les histoires des gens. Ouais. Et raconter l'histoire des gens, pour moi, c'est pas forcément raconter les histoires des puissants, ou des célèbres, ou de ceux qui ont un titre de président de quelque chose, ou de trucs. Je pense qu'en fait, on a une vraie tradition en France de journalistes reporters qui vont sur le terrain, qui racontent des histoires. Et en racontant ces histoires-là, d'anonymes, finalement, racontent à plus grande échelle la France dans laquelle on vit ou le monde dans lequel on vit.
Et le père fondateur, Albert Londres.
Voilà, ouais. Albert Londres, Joseph Kessel. Mmh. Aux États-Unis, il y en a beaucoup aussi qu'on peut citer, dans tout le nouveau journalisme américain. La deuxième moitié du XXe siècle. Norman Mailer, Truman Capote, John Didion, enfin, y en a pas mal. Et ils ont encore cette tradition, je trouve, aux États-Unis. Mm-hmm. Mais nos journaux à nous, on a perdu un peu, enfin, on n'a pas perdu, mais on a moins de place. Et ça se concentre sur quelques journalistes assez privilégiés dans les journaux qui sont. C'est Florence Omna qui dit ça, qu'ils sont spécialistes de rien du tout. Ils sont ni attribués au service sport, ni attribués au service société, ni à suivre l'extrême gauche ou l'extrême droite toute l'année. Mmh. Mais ils sont un peu des électrons libres qu'on envoie pour écrire des bonnes histoires, quoi. Et ça, c'était ce que je cherchais à l'époque où je suis rentré en école de journalisme. Mais j'étais un peu dans un fantasme parce que c'était déjà la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire réservée à quelques-uns qui ont déjà une belle carrière derrière eux et tout ça. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai écrit ces livres, c'est que la place, alors elle existe, la revue 21, et pendant des années j'étais journaliste là-dedans et j'ai été vraiment traité comme un gosse de riche, on m'a donné ce que je voulais tout de suite, mais cette forme de liberté-là, de raconter des histoires que peut-être personne n'a envie d'entendre, ou en tout cas des histoires d'anonymes, on a encore cette liberté dans la littérature.
Alors, vous êtes servi de la littérature à deux reprises maintenant, plus tous ces longs articles dont vous parliez à l'instant, mais vous avez aussi réalisé deux séries documentaires pour France Culture, dont celle-ci, Photo de classe.
Romain, il a grandi en jogging, comme moi. Et je pense pas me tromper en disant qu'on fait partie d'une armée d'enfants qui se sont rêvés footballeurs et qui verront toujours les autres métiers comme des plans B. Il habite encore à Ris, avec sa copine et un petit chien.
Descends. Cookie.
Allez. Après le bac, il s'est pas éternisé.
Quand j'étais à la fac, j'avais soit de faire, par exemple, master ou doctorat, de faire des plus longues études, mais moi, j'avais besoin de travailler tout de suite, en fait. C'était un peu dur à la fac, sans argent, c'est pas facile, donc du coup, j'ai préféré écourter les études, en fait.
Ça, c'est donc extrait de Photos de classe de Mathieu Palin, notre invité aujourd'hui. C'est une série sur France Culture dans laquelle vous êtes parti à la recherche de vos camarades qui figuraient sur votre photo de classe de CM2 lorsque vous aviez 10 ans en 1998. C'est une sorte de copain d'avant, mais pour de vrai. Mmh. Pourquoi ce travail-là ?
Bah parce que j'avais le sentiment d'avoir vécu une année un peu dorée, une année où il avait pas plu de l'année, une année où il avait fait que soleil, on avait été en short et j'étais qu'entouré d'amis qui étaient les amis que je m'étais fait en CP et puis on s'était suivi comme ça jusqu'à ce moment un peu charnière où la carte scolaire va nous séparer et c'est une époque où on n'avait pas internet à la maison, Facebook n'existait pas et on n'avait bien entendu pas de téléphone portable. Et donc, et c'est une époque pas si lointaine, mais qui était quand même la nôtre quand on avait 10 ans. C'est l'année 98, c'est l'année où on gagne la Coupe du Monde. Enfin, tout ça a fait que, dans mon souvenir, j'avais l'impression que c'était une année dorée. Mmh. Et après, on s'est vraiment perdu de vue parce que pas Facebook, parce que pas tout ça. Et donc, je me suis dit un jour, mais en fait, ces gens-là, avec qui je m'entendais si bien, dont je me souviens de tous les noms, les prénoms, même de ce que faisaient leurs parents et tout ça. J'avais 28 ans au moment où j'ai fait cette série. 18 ans après, que sont-ils devenus ? Et du coup, j'ai pris mon micro, enfin en l'occurrence pas le mien, mais celui de France Culture, et je suis allé voir tous ces gamins qui étaient plus des gamins, qui avaient en effet, comme Romain là qu'on vient d'entendre, commencé à fonder une famille, qui avaient trouvé des boulots, qui avaient certains beaucoup galéré, Et je découvrais aussi ce que je voyais pas avec mes yeux d'enfant, c'est-à-dire qu'en effet, la vie était pas rose. C'est moi qui avais cette vision-là, mais il y avait des gamins dont on avait coupé pour qui on avait coupé l'électricité parce que les parents payaient pas les factures. Il y en avait d'autres qui vivaient la violence à la maison. Tout ça, c'est des choses qui nous passent un peu au-dessus quand on est petit. Ouais. Et de faire ce travail-là m'a permis de m'intéresser déjà à ce qu'on pourrait appeler un parcours. C'est qu'est-ce qui fait que, alors qu'on était ensemble à la même époque, il y en a qui prennent une voie plutôt qu'une autre. Et ça, c'est passionnant, je trouve.
Cette violence à la maison, d'ailleurs, ça a aussi fait l'objet d'une série, une autre série sur culture qui s'appelait Des hommes violents. Ouais. Hein. Mais le temps me manque un peu pour passer en revue ce que vous avez fait, parce que vous avez déjà fait beaucoup de choses en très peu de temps. Et je vois Charline Roux qui piaffe d'impatience en régie à l'idée de nous rejoindre. Et puisque vous parliez de 98, je vous propose d'écouter un petit Ayam pour la route. Allez, c'est parti.
Petit frère n'a qu'un souhait devenir grand. C'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor, c'est éclater les tronches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur Blanche-Neige et les sept nains. Maintenant les nains ont giclé Blanche-Neige et tape éclate, les types claquent dans Mortal Kombat. À 13 ans, il aime déjà l'argent, avide mais ses poches sont parides. Alors on fait le caïd dans des booms qui sont désormais des soirées plus de sirop dessert. Petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ces cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de sept lieux.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère. De fringue et de thunes, de réputation de dur. Pour tout ça, il volerait la lune. Il collectionne les méfaits sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Peu lui importe de quoi demain sera fait. De donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête, le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames-dames de l'Afrique. Plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire. Il ne joue plus aux billes, il veut jouer du revolver. Petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier. Pensez au butin qu'il va amasser.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de sept lieux.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
Ayam, petit frère, ça date de 98, l'année dont nous parlions à l'instant avec notre invité Mathieu Palin. Et c'est à 37 km/h de moyenne que vient de nous rejoindre Charline Roux depuis sa Picardie. Pas même essoufflé.
Si seulement.
Pas même essoufflé, ce qui alimente des vieux soupçons de dopage dans ce studio.
C'est pas faux.
521. Alors Charline, je vous présente Mathieu. Mathieu, Charline.
Enchanté.
Charline, ne t'arrête pas de courir. Enfin, je veux dire, Charline, le livre de Mathieu s'appelle Ne t'arrête pas de courir. Et que raconte-t-il ?
C'est l'histoire d'un athlète de haut niveau, Toumani Koulibaly, champion de France du 400 mètres, membre de l'équipe de France d'athlétisme, promis un brillant avenir, mais voilà. Le champion en question, plutôt, par exemple, que de célébrer sa médaille de vainqueur sur 400, le soir même, enfile une cagoule pour aller cambrioler une boutique de téléphonie. Ni une première, ni la dernière infraction. On aurait vite fait de résumer le livre à l'histoire d'un athlète le jour, voleur la nuit. Mais ce serait bien réducteur. Ne t'arrête pas de courir est une enquête, un mystère, mais aussi un double portrait de celui qui court et de celui qui écrit. Est-ce que c'était le projet originel ?
Non, pas du tout. Non, en vrai, il n'y avait pas de projet originel. Il y avait juste une petite idée de journaliste de dire « Tiens, j'ai l'impression d'être tombé sur une bonne histoire ». Et donc, je lui ai écrit une lettre, sauf qu'il a mis un an à y répondre à cette lettre. Donc, au moment où j'écris cette lettre, j'ai ce truc un peu... ce petit piège de journaliste de dire ça vous intéresserait qu'on se rencontre et là j'ai l'idée de peut-être écrire quelque chose sur lui, mais en fait au moment où il me répond j'ai démissionné de la revue 21 justement, et je pour dire la vérité j'en ai un peu marre de ce métier et j'envisage même de devenir prof de PS à 30 ans et je fais une lettre au rectorat pour qu'on m'accepte et tout ça. Donc ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, je me dis tout ça arrive à cause de moi, c'est moi qui ai écrit cette lettre. Donc je peux pas ne pas répondre à cette main tendue, donc il faut que j'aille le voir en prison. Et donc j'y vais, et j'y vais de manière désintéressée, réellement. Et puis, comme finalement je le trouve passionnant, je me retrouve avec beaucoup d'autres questions, et je reviens la semaine d'après, et encore celle d'après. Puis au bout de deux ans, là, je me fais virer de la prison par l'administration pénitentiaire. Et l'idée d'un livre commence à germer, ouais. Mais c'est pas du tout là dès le début.
C'est ça, c'est pour cette raison-là que vous avez choisi d'en faire un livre plutôt qu'un reportage au long cours, comme vous aviez fait précédemment pour cette fameuse revue 21. Et le choix de la non-fiction narrative, comme on dit, c'est un genre dans lequel se sont illustrés en France des Emmanuel Carrère et évidemment Florence Aubenas dont vous parliez. Ça s'est imposé naturellement.
Pour mon premier, pour Sale Gosse, c'était né comme un reportage, et puis je m'étais autorisé, sur les conseils de mon éditrice, à mettre un peu de fiction dedans. Et du coup, c'était un livre qui était un roman, sur lequel je pouvais rien marquer d'autre sur la couverture que roman, mais avec, je dirais, 80% d'histoire vraie dedans. Et là, pour celui-ci, je me disais, c'est bête de tricher pour aussi peu de choses avec une histoire aussi extraordinaire. Je pense que les gens, si je leur dis « oui, bon, c'est un roman, mais presque tout est vrai », ils vont se dire « bon, bah là, probablement que c'est trop pour que ce soit vrai ». Donc là, il a dû nous mener un peu en bateau, ça aussi, ça doit être faux. Et tout. Donc je me suis dit « bah allons-y, ça va être plus de boulot », parce que c'est vrai que c'est plus de boulot en termes de ne serait-ce que de reportage, de documentation et tout ça. De venir en disant « voilà, toute cette histoire-là, vous pouvez me faire confiance, c'est une histoire vraie ». Mais je voyais pas d'autre manière de raconter cette histoire.
C'est dans un article du Parisien que vous avez découvert l'histoire de Toumani Coulibaly, alors qu'il comparaissait à nouveau devant le tribunal correctionnel. Et vous avez été frappé par une chose, Toumani ne s'adressait pas au juge pour plaider sa cause, mais s'adressait aux journalistes, en fait, pour leur dire de ne pas écrire n'importe quoi au motif que ses enfants étaient en âge de lire. Bah, en fait, c'est ça qui vous a motivé à le raconter? C'est ça qui vous a touché en premier lieu?
C'est ça qui m'a touché, ouais. En fait, c'est tellement inhabituel. Je suis pas du tout journaliste judiciaire, mais ça m'est arrivé un paquet de fois quand même de me retrouver dans une cour correctionnelle. Et à la fin, le juge s'adresse toujours au prévenu en disant « Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?» En général, le prévenu, il sort sa dernière carte en disant « S'il vous plaît, faites-moi confiance, je vais me racheter, j'ai compris la leçon, me renvoyez pas en prison. » Et là, de se tourner vers les journalistes pour penser en fait à son fils et pas du tout à lui. Ça témoignait au-delà d'une certaine forme d'intelligence et de je sais pas, ça sollicitait chez moi tout simplement de l'empathie, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, j'ai sorti mon ordinateur et j'ai écrit cette lettre. Et j'écris jamais de lettres. Et d'ailleurs, je pense pas en avoir écrit d'autres depuis. Donc c'est vraiment un truc impulsif, quoi.
Alors je reviens au déclencheur du livre. On a là ce qu'on appelle un sujet en or, un champion le jour... cambrioleur la nuit, un peu comme Zorro, hein, avec des, avec des nuances. Bruce Wayne. Et puis un champion prêt à tout sacrifier pour des menus larcins, comme s'il voulait se tirer presque inconsciemment une balle dans le pied.
Ouais, c'est ça qui est très étonnant, parce que il serait facile de caricaturer l'histoire en disant, bon bah voilà, un mec de banlieue, qui a grandi dans la misère, 18 gamins à la maison.
Oui, il y a une fratrie de 18.
Oui, il y a deux mamans à la maison, ils sont 18. Bon, bah, il a tellement manqué qu'en fait, il a fallu voler. Mais Toumani lui-même, il me reprendrait si je disais ça, parce qu'il dirait, mais moi, j'ai manqué de rien quand j'étais petit. D'ailleurs, mes 17 frères et sœurs, ils ont jamais fait ce que j'ai fait. Et là, ça devient intéressant, parce que pourquoi est-ce qu'on se met à voler des trucs dont on n'a pas besoin? Pourquoi est-ce qu'on se met à voler des trucs qu'on va donner immédiatement à son voisin, ou qu'on va distribuer dans la cour de l'école, ou qu'on va... Et là, on touche du coup beaucoup plus à l'intime et à l'histoire personnelle, aux failles qu'on a en soi, parfois malgré soi. Et là, il y a une matière potentiellement à narration et à littérature, quoi. Ouais.
Cette lettre que vous décidez de lui envoyer débutait ainsi: « Cher monsieur Coulibaly, on a le même âge, on a quasiment grandi au même endroit, et si on se croisait dehors, on se tutoierait sûrement, mais on ne se connaît pas. Alors je vais dire vous, et dans la suite de cette lettre, vous racontez vous, et vous citez ceci. »
« Comprendront rien à ce fils de lâche, si tu viens pas d'un tiexte, tu capes pas ce qui s'y passe. Les frères font du cash avec ces choses qu'ils cachent, ces choses qu'ils stockent, qu'ils gardent et qu'ils amassent. » Superposé petit frère en pyjama.
Banlieusard syndrome de This is la peste, est-ce que vous avez d'emblée senti quelque chose de potentiellement commun entre vous et lui?
Non, ce que j'ai senti, c'est de me dire que peut-être il était pris dans justement ce banlieusard syndrome qui veut qu'on a sincèrement envie de s'arracher au quartier. On rêve d'un pavillon avec un jardin, avec un chien dedans. Mais en réalité, parce qu'on vit dans ce quartier, parce que toute notre vie y est concentrée, on n'arrive pas à s'enfuir. À chaque fois qu'on fait une tentative vers l'extérieur, on croise un mec à la boulangerie qui va nous dire « Tiens, demain, j'ai un plan pour toi, est-ce que ça t'intéresse ?» Et j'avais l'impression que Toumani, étant intelligent, étant manifestement un bon garçon, même si cette expression ne veut rien dire, j'avais l'impression que ça ne pouvait être que malgré lui qui faisait tout ça. Et c'est là où j'ai un peu faux. Parce que en me collant à lui, en essayant de comprendre, c'est aussi penser que les gens intelligents sont forcément innocents. Et c'était pas son cas.
Alors moi, j'en reviens à cette lettre que vous lui envoyez et qui reste sans réponse pendant un an. Et puis à ce moment où vous êtes désespéré, vous envisagez effectivement de devenir prof de PS comme vous l'aviez imaginé au départ. Vous savez que la vie, aussi bien que moi, que la vie est faite de ces petits moments de bascule. Donc ça s'est joué à ça. Aujourd'hui, vous seriez vraiment prof de PS et Koulibaly serait resté dans son coin ?
Non, je sais pas du tout. La réalité, c'est que le rectorat n'a pas voulu de moi déjà. Donc j'ai une lettre de refus qui dit que tout simplement parce que j'avais
qui dit que
pas.
Quoi
qui dit que il me manque des UFR pour devenir
des UFR,
des unités de je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros.
Je veux dire formation, mais c'est vraiment au hasard.
Oui, et en gros, j'ai pas les années pour pouvoir prétendre au concours.
Ouais.
Et j'ai pas le statut de sportif de haut niveau qui permet de zapper justement ces années.
D'accord.
Mais non, je sais pas ce qui serait arrivé. C'est vrai que c'est un moment. Moi, j'étais un peu dans une forme, en tout cas au niveau du journalisme, dans une petite forme de dépression, je pense, à me dire que j'avais fait 10 ans de ce métier, que c'est pas grave, j'ai fait mon tour et finalement je me retrouve plus dans ce monde-là. Et Toumani, en me répondant, en m'envoyant ce texto qui disait juste « Salut Mathieu, c'est Toumani », a mis une pièce dans le jukebox pour que ça reparte. Quoi.
Rendez-vous compte, vous ne seriez peut-être pas aujourd'hui à Pop Pop Pop.
Peut-être pas.
Oh là là, Mathieu Palin, ne t'arrête pas de courir, publié chez l'Iconoclaste. On continue à en parler dans quelques instants, mais là je vois qu'il est 16h31 et ça veut dire que c'est l'heure des Pop News.
On vous a déjà parlé ici des vidéos Two Minutes to Late Night, dans lesquelles des musiciens de métal et de punk se réunissent pour reprendre des classiques. Et bien, dans leur dernière vidéo, les 10 musiciens se sont attaqués à un patrimoine encore une fois inattendu, celui des génériques de dessins animés de la chaîne Fox Kids. Ainsi, peut-on y entendre cette version du thème des X-Men ? Et on y entend aussi la musique revisitée d'une autre série de super-héros animés. Spider-Man Vénère Édition, on vous glisse évidemment la vidéo dans son intégralité sur le compte Twitter 3615 popopop.
Passons à une ambiance musicale un peu plus sereine, et ce grâce à un duo que l'on aime beaucoup ici, Maxwell Farrington et le Super Omar, qui s'apprête à sortir un nouvel EP, annoncé par ce titre « Two Hopeful Lovers ». Hopeful Lovers, c'est à retrouver sur I Had It All, c'est un nouvel EP ou EP de Maxwell Farrington et le Super Omar qui sortira le 20 mai.
Au début de la bande-annonce de l'été nucléaire, Victor est en plein footing. Il attrape son téléphone pour constater qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels en absence.
Les groupes appuyés évacués doivent s'enfermer maintenant.
Quoi ?
Je te rends pas compte, Victor, ils sont en train de parler d'un accident nucléaire là.
Les pouvoirs publics rappellent l'obligation de se confiner aux personnes n'ayant pas pu évacuer.
Y'a quelqu'un ?
En fait, y'a une fuite. Il faut vraiment que tu te confines, d'accord ?
Pourquoi ça craint l'orage ?
La pluie, ça dépose les particules radioactives qu'il y a dans les nuages par terre.
Moi, j'en peux plus, là, les gars, sérieux, j'ai envie de bouger, là. C'est pas naturel de rester comme ça, on va devenir fous, là, sérieux.
Le réseau téléphonique restant saturé, les contacts sont toujours très difficiles avec les...
Quand survient un accident à la centrale nucléaire voisine, Victor se retrouve confiné dans une ferme avec ses anciens copains du village. L'été nucléaire de Gaël Lépingle et Pierre Chausson avec Shane Boumedine, Carmen Kassovitz et Théo Augier. Ce sera le 11 mai dans les salles.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de
Cohn.
Ouais, ouais, c'est moi.
C'est Jean Lassalle qui chante du métal, peut-être, éventuellement.
C'est Jean qui est encore là pour
juste. Il est là souvent quand même.
La dernière fois, entre les deux tours.
Il faut rentrer, monsieur, maintenant.
Oui, je vais rentrer me coucher. Merci, merci, monsieur Charline. Nous sommes en compagnie de Mathieu Palin pour parler avec lui de son livre Ne t'arrête pas de courir, publié à l'Iconoclaste.
Une fois la première rencontre et le contact établi, vous entamez avec Toumani Coulibaly une série de rencontres, entretiens au parloir et Coulibaly de vous raconter son enfance, ses débuts de voleur très très précoces et son retour au Mali, envoyé là-bas par son père excédé par, je cite, ses conneries. Et c'est au Mali qu'il vivra sa première expérience de la prison à 14 ans. Une expérience traumatique, mais pas suffisamment pour le vacciner. Est-ce que c'est avec ce récit de jeunesse que vous avez commencé à comprendre que ses pulsions le dépassaient ?
Ouais, en fait, quand il m'a présenté lui-même sa propre histoire, en fait, c'est dans une lettre, encore une fois, qui m'a mise dans la main au moment où je quittais le parloir. C'était la deuxième fois que je venais le voir au parloir. La première fois, j'avais été assez subjugué par lui. C'était quelqu'un d'assez solaire qui m'a donné envie de m'intéresser à lui, tout simplement. Et la deuxième fois, c'est comme s'il me prévenait « ne t'attache pas à moi », parce qu'il me met dans la main une lettre qui dit « je suis menteur, manipulateur,
et pas si gentil
narcissique,
que
pas si gentil que ça, les gens s'attachent à moi, mais je suis lâche, mais je ne serais pas capable de me battre ». Enfin, il y a toute une liste de toutes ces tares qui sont tellement exposées de manière tellement crue que le message que je reçois, moi, c'est « ne t'attache pas à moi, mais attache-toi quand même ». Mmh. Et donc, je me dis, bon, je suis tombé sur aussi un cas au niveau psy qui est intéressant, parce que c'est quelqu'un qui a conscience d'avoir un problème et qui, du coup, travaille sur lui-même. Et donc, s'il a fait des progrès, disons, dans ces quelques années passées avec moi, c'est pas grâce à moi, c'est parce que pendant tout ce temps-là, il s'est posé la question de savoir, en effet, pourquoi je suis là ? Pourquoi tout le monde m'a dit que je devrais pas être là ? Pourquoi les autres détenus me disent « mais toi, t'as rien à faire parmi nous » et moi, pourtant, j'y suis et j'y suis pour longtemps.
Mais justement, Mathieu Palin, au fil de ces rencontres avec Coulibaly, vous devenez son confident d'une certaine manière, jusqu'au point où s'établit une relation en miroir entre vous deux et qui ouvre le livre sur une toute autre histoire. En gros, et c'est un thème que vous travaillez beaucoup, je sais, pourquoi êtes-vous à votre place et lui à la sienne ? Vous êtes né la même année, vous avez grandi au même endroit. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je pense que ça, c'était mon point de départ, de me dire, voilà nos points communs. On est né la même année, on a grandi au même endroit. Et je pensais, je ne sais pas si je le pensais vraiment, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai présenté. Je pensais que ça allait suffire à le comprendre. Mais des mecs qui sont nés en 88, comme moi, dans l'Essonne, il y en a des milliers. Mmh. Et ce n'est pas pour ça que je les comprends. Donc pourquoi est-ce que j'étais là, ça avait trait à une autre raison, peut-être bien plus profonde, qui fait qu'en fait ça faisait 10 ans que je travaillais sur la prison et que je tournais un peu autour du pot, hein, essayer de comprendre ce que ça voulait dire que d'être enfermé, que de voir sa jeunesse disparaître dans une cour de promenade, toutes ces questions-là qui sont liées à la délinquance et à la criminalité, finalement j'avais l'impression qu'elle me poursuivait. Et quand on est journaliste, on a parfois une espèce de récurrence à tomber sans arrêt sur les mêmes sujets, ouais. Mais on s'excuse en se disant, ben non, mais ça c'est l'actu, ce qui nous tombe dessus, qui fait qu'on est sans arrêt en train de passer sur des sujets, puis c'est des sujets intéressants. Mais nos proches, ceux qui nous voient de l'extérieur, voient bien qu'on a une obsession, voient bien que ça fait des années et des années qu'on tourne un peu autour des mêmes sujets. Ouais. Et moi, c'est en rencontrant Toumani, et surtout en écoutant mes proches qui me disaient, et la prison, qui me disaient, mais qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi vous faites ça ? Mais demandez-vous pourquoi vous faites ça, protégez-vous. Toutes ces injonctions un peu qui m'énervaient, finalement, quand je me suis retrouvé seul devant un carnet et que j'ai posé vraiment la question, pourquoi tu fais ça ? Ben, bizarrement, il y a des réponses qui sont arrivées.
La réponse est dans le livre.
Et la réponse est dans le livre, mais en effet, elle a trait à une question qu'en général, on refuse de se poser, qui est celle de... très personnel, de savoir, est-ce qu'on fait ça pour le bien du journalisme et l'espèce de droit du public à l'information, à savoir, ou est-ce qu'on le fait vraiment parce qu'on a des failles en soi ?
Charline, vous faites ce métier pour le bien du journalisme ou parce que vous avez des failles en vous ?
Vous avez 2 heures
Nous avons 2 heures. Non, oui, je peux prendre ces 2 heures.
Allez. L'histoire de Toumani Koulibaly, c'est aussi celle d'un garçon passé à côté de sa jeunesse et qui se rattrape une fois de retour en France. Et c'est par le sport qu'il va partiellement s'accomplir. Et c'est presque encore une fois par naïveté et par deux filles qu'il se met à l'athlétisme. Alors que le monde entier découvre époustouflé Usain Bolt, et ben lui, il se dit qu'il peut le battre et il décide de vérifier sa théorie. Cette forme de naïveté, c'est pas le terme exact en fait. Enfin, il n'y a pas de jugement là-dedans, de fraîcheur presque enfantine. C'est aussi ce qu'il caractérise.
Ah, complètement. Moi, je suis fasciné aussi par ça parce que moi, je suis le sport, l'actualité sportive depuis que je suis tout petit. Je vois un mec à la télé, j'ai son nom qui apparaît directement dans ma tête parce que en fait, l'habitude de lire l'équipe, de regarder tout ça, fait que j'ai une culture un peu sportive. Et lui, pas du tout. Il rentre en équipe de France d'athlétisme sans même connaître Christine Aron ou Christophe Lemaitre qui sont à côté de lui. Usain Bolt, il le voit, tout le monde se dit que c'est incroyable, ça n'arrive qu'une fois par siècle. Lui, il se dit qu'il peut le battre. Parce que il en est persuadé, en plus. C'est même pas de la vantardise, quoi. Il est persuadé de ça. Et là où ça devient un peu dangereux pour lui, c'est que en entrant en équipe de France, il est aussi persuadé qu'il va gagner beaucoup d'argent. Parce qu'il se dit, l'équipe de France, bah, c'est Zidane, c'est Mbappé, c'est Benzema, c'est des mecs qui comptent pas l'argent. C'est des mecs pour qui la vie est facile. Et malheureusement pour lui, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant aussi à raconter, que les gens peut-être ignorent, que des sports qui vous permettent d'en vivre bien, il y en a très très peu. L'immense majorité des sports, que vous soyez en équipe de France, même médaille olympique, ne vous permet pas d'en vivre. Vous devez avoir un métier à côté. Et Toumani, ça a été un vrai choc pour lui. Parce que il était persuadé, finalement, d'avoir eu de la chance d'être tombé sur ce sport qui lui correspondait tant et qui lui permettait d'être respecté, de voir de l'admiration dans l'œil des gens qui venaient le voir courir. Et pour autant, son compte en banque, il restait dramatiquement sous le seuil de flottaison, quoi.
Alors Mathieu Palin, il y a deux grandes questions. Une des deux grandes questions, c'est de savoir pourquoi vous êtes tellement fasciné par ces histoires d'enfermement, d'emprisonnement. Et cette réponse-là est dans le livre. Et on n'en parlera pas ici, parce qu'on n'a aucune raison de spoiler. Mais elle est absolument incroyable. Et puis, finalement, moi, je voudrais savoir si vous avez trouvé la réponse à l'autre question qui hante ce livre. C'est pourquoi certains s'en sortent-ils et pas les autres ? Vous continuez à vous la poser ou pas ?
Ouais, bien sûr. Je pense que c'est une question qui est passionnante à partir du moment où on se rend compte qu'on a un privilège aussi. Parce que c'est vrai que j'ai grandi en banlieue et que je pense avoir mis la première fois les pieds à Paris à 17 ans et j'ai fait une visite à Paris comme un touriste japonais en allant à la Tour Eiffel et en allant boire des verres dans le 6e. Mais par rapport à Toumani, par exemple, j'ai mes deux parents à la maison qui parlent cette langue, le français, qui ont eu 3 enfants et pas 18, et qui n'ont pas eu à se débattre dans une certaine forme de pauvreté. On gagnait pas beaucoup. Mes parents n'ont jamais gagné beaucoup d'argent, mais on n'a jamais eu l'impression non plus de manquer. Et ça, d'avoir des parents qui sont là, qui vous soutiennent, ça fait toute la différence. Moi, quand je leur ai dit je veux devenir footballeur, ils m'ont dit bah allez, on y va à fond. Quand je leur ai dit je veux être prof de PS, ils m'ont dit bah super, bonne idée, allez, c'est parti. Et quand je leur ai dit journaliste, ils m'ont dit bah on n'en connaît pas un seul, mais on va se renseigner. Et ça, c'est ce qui peut faire toute la différence.
Irremplaçable. Évidemment, c'est irremplaçable. Mathieu Palin, je rappelle que ce livre passionnant, ce récit passionnant, ne t'arrête pas de courir, est à dévorer aux éditions de l'Iconoclaste. Et j'encourage tous nos popopiens à courir justement en librairie pour se le procurer. C'est un livre vraiment remarquable. Vous restez avec nous, car dans un instant, nous allons examiner votre pop list, c'est-à-dire vos choix en matière de pop culture. Mais pour l'heure, écoutons ensemble Sea Carter. C'est un morceau de Corday.
Ladies and gentlemen, boys and girls, I need y'all to just rock with me. Yeah, I used to dream about a Dodge Charger. Suicide dose, sitting on 24s. I was trying to find a job and shit, why bother? Being broken, make you try harder. Sitting in the house watching Coach Carter. Plotting on this fucking Cartier. Hey, plus a nigga trying to go farther. I finally arrived and nobody's here. Hey, I used to dream about a new Hummer. Back when good music dropped, Cruel Summer.
Back when niggas wondered if I do numbers. Check the stats, boy, nigga doing huge numbers. Got this dime piece sucking on my cucumber. I ain't doing too bad for a newcomer. This life shit gave me scars with a bruise under. Certain shit don't make you wonder. But that's a part of the game. We call life, love is hard to attain. My little brother drive a Jeep and I just bought him a chain. A real nigga what I'm is and what I always remain. But this bitch temptation keep calling my name. I wrote this song in LA, I was driving my Benz. Thinking about this road I'm on to acquire ends. I'm a fucking outlier, I retire these trends. Niggas told me I was stupid just for hiring friends.
I used to dream about a Dodge Charger. Suicide though, sitting on 24s. I was trying to find a job and shit, why bother? Being broken, make you try harder. Sitting in the house watching Coach Carter. Plotting on this fucking Cartier. Hey, plus a nigga trying to go farther. I finally arrived and nobody's here. Okay, listen to these proverbs, the odd words we call rap music. That took me all across the globe, watch people react to it. Figments of imagination, couldn't fathom elation. Indescribable with words, so I'll go illustrate it. Illustrious rhyming career for which my rhymes are revered. Clear signs of alignment, shows my timing is near. We all here for an assignment, several souls that are migrant. Simply vessels in this climate, solitary confinement. I break free every time that I wake. My faith leads and creates seeds that eventually blossoms of trees. Getting rid of all the extra shit I thought I would need. I put your head on the swivel, wear my heart on the sleeve. But just breathe, this simple exercise can even rectify our greatest sins. Although my days won't end next to God, I atone for all of my wrongs through our songs. But let him who is without sin go cast the first stone. I used to dream about a Dodge Charger.
C'était Sick Carter de Corday. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Mathieu Palin. Ah, cette mine réjouie. Ces premières notes de Jump de Van Halen, c'est le son pop que vous avez choisi.
Ouais.
Et pourquoi
c'est,
ça?
Parce que c'est la musique qui part sur l'entrée des joueurs de l'Olympique de Marseille quand ils sortent du tunnel et qui tiennent la main de ces petits enfants qui sont là pour la photo. Et ça, c'est...
Attendez, calmez-moi, parce que vous venez de région parisienne, là.
Ça, plus que Phil Collins, donc.
Oui. C'est la beauté de l'Olympique de Marseille, c'est que ça ça se répand partout en France.
Vous êtes conscient des risques que vous prenez comme ça? Parisien.
Mais bon, là, c'est un club que je crois que dans le football on choisit pas trop, ça tombe dessus, après ça reste jusqu'à la fin.
Eh bien, peu cher, c'est ainsi que commence votre pop list.
Perdu croc?
Ouais, un petit peu. Mathieu Palin, nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série que vous appréciez en ce moment. Et si votre livre préféré de tous les temps, c'est L'Attrape-cœur, vous nous l'avez dit, votre livre du moment, c'est Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou. Charline, qu'est-ce que c'est que cet oiseau?
Alors, je ne suis pas super forte en oiseaux, je vous le confirme. Donc, je dirais simplement que c'est le premier volume des mémoires de Maya Angelou, l'enfance d'une femme exceptionnelle devenue une figure emblématique des États-Unis, et qu'il y ait question d'identité, de racisme, de résilience, d'apprentissage du langage et de littérature.
Mathieu, je vois que vous tenez le livre en main et que vous brûlez de nous en lire quelques lignes.
Elle raconte en fait son enfance dans une ville qui s'appelle Stems. Et elle écrit... La ségrégation était si totale que la plupart des enfants noirs ne savaient pas, en vérité, à quoi ressemblaient exactement les blancs. Excepté qu'ils étaient différents, et qu'il fallait avoir peur d'eux, et cette peur traduisait aussi l'hostilité des faibles contre les puissants, des pauvres contre les riches, des travailleurs contre les patrons, et des mal habillés contre les bien vêtus. Je me rappelle n'avoir jamais cru que les blancs fussent vraiment réels.
Extrait de ce livre, Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou. Alors pourquoi est-ce que c'est le livre que vous nous conseillez tous de lire?
Déjà parce que j'avais jamais rien lu de Maya Angelou, mais que je la connaissais son nom, donc ça m'a intéressé. Ensuite parce que je suis en train de travailler sur l'histoire de Joséphine Baker, et elles viennent toutes les deux de Saint-Louis, dans le Missouri, et elles ont toutes les deux consacré leur vie à combattre le racisme et les inégalités. Et j'en reviens, moi, de Saint-Louis. J'y suis allé début avril pour essayer de voir si ce qu'elle racontait il y a presque un siècle était encore d'actualité. Et c'est assez fascinant parce que c'est une ville qui est traversée par le Mississippi. Ouais. Et d'un côté, il y a une sorte de modernité qu'on voit un peu dans toutes les villes américaines, avec de grands trottoirs propres et des Starbucks et tout un tas une sorte de centre-ville un peu qu'on peut reproduire à l'infini. Et juste de l'autre côté de la rivière, il y a East St. Louis, comme ils disent, qui est vraiment une zone déserte et morte, qui sont les quartiers pauvres, qui sont les quartiers noirs. Mmh. Et ça, ça a été très frappant. Du coup, en rentrant, je me suis dit, il faut que je lise Maya Angelou. Donc, je n'ai pas fini, je suis en train.
Et ça vous plaît?
Et ça me plaît beaucoup.
Et ça vous plaît beaucoup. Bien, votre série culte, Mathieu, est de loin, dites-vous, c'est The Wire, la mythique série HBO. Alors, j'ai presque envie de dire, évidemment, quand on y parle de social autant que de drame, Charline, n'est-ce pas?
Et il y a Idriss Elba. Pardon, c'est contractuel. Baltimore, ses flics, ses dealers, sa contrebande, ses syndicats, ses politiciens, son système éducatif, sa presse et Idriss Elba. Je l'avais déjà dit ça.
Avon Barksdale, string a bell. Barksdale has 5 out of 7 towers on the terrace. That's 10 stairwells and 5 high-rises going 24/7 for Dope and Coke.
Bye, bus.
I want to get in and out as quickly as possible.
These guys are good. They're deep, they're organized. They got everyone on the terraces running scared.
What do you suggest?
Surveillance teams. DNRs, asset investigation. Keep gathering strength till we can find a way in.
Mathieu Palin, pourquoi avoir choisi The Wire? Vous iriez jusqu'à dire que Baltimore, c'est le Rissorangis américain?
Non, quand même pas. Non, ils sont... Heureusement pour Rissorangis. Ouais. Mais c'est une série qui est incroyable, que je conseille vraiment à tout le monde, parce qu'elle est... C'est une fiction qui est extrêmement inspirée de faits réels, parce qu'elle a été... Elle est l'œuvre d'un journaliste à la base, qui s'appelle David Simon, qui écrit un livre qui s'appelle Baltimore, qui donne... dont puisent les scénaristes et dont il fait partie pour écrire ensuite cette série. Et de Baltimore, ça vient après un an d'immersion dans la police de Baltimore. Mmh. Et c'est du reportage, mais mis au service de la fiction et de la télévision. Et c'est extrêmement, extrêmement fort, parce qu'on a l'impression d'y être, encore une fois. On est avec les dealers, on est avec les flics. On n'est pas dans le manichéisme, au contraire, on est dans la complexité.
Reconstitution, ouais. Ouais.
Et on accepte que les salauds soient aussi parfois des mecs bien et que les mecs bien aient une part d'ombre. Et ça, ça ressemble vraiment à la vie. Et voir une série qui ressemble à ce point à la vraie vie, c'est très très fort et très très dur à faire, je pense. Donc je la conseille.
The Wire de ce génial David Simon. Votre film du moment, Mathieu Palin, c'est Julie en 12 chapitres du Norvégien Joachim Trier, lointain cousin de Lars von Trier, du même nom. Charline, en un court chapitre, très court s'il vous plaît, qui est Julie?
The Worst Person in the World, c'est pas un jugement, c'est le titre anglais. Julie, bientôt 30 ans, n'arrive pas à se fixer dans la vie alors qu'elle pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès d'Axel, 45 ans, auteur à succès. Elle rencontre le jeune et séduisant Eivind.
Jeg vil ikke plage deg om du er lykkelig, liksom. Er du det?
Skjønner du liksom hva du er ferdig med å gjøre nå? Skjønner du hva du...
Selvfølgelig.
Oui, c'est en norvégien. Alors évidemment, moi j'ai tout compris, mais pour ceux de nos auditeurs dont le norvégien serait peut-être un peu rouillé, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui se passe là-dedans?
C'est l'histoire d'une fille qui est un peu paumée dans sa vie, qui, elle veut pas devenir journaliste ou prof de PS, mais elle cherche un peu, donc elle essaye un peu la photo, elle essaye un peu tout. Elle devient un peu libraire à un moment. Et c'est une histoire assez banale de sortie de l'adolescence, qu'est-ce qu'on va devenir, comment est-ce qu'on devient adulte, qui est aussi une histoire de qui tourne autour de ça, de ses relations amoureuses. Et de comment être une bonne personne, si tant est que ça puisse être possible. Mais c'est pareil, c'est sans manichéisme, c'est très bien filmé, et puis l'actrice est formidable. Et puis comme je ne peux plus trop aller au cinéma parce que j'ai un bébé de moins de 9 mois, c'est tout simplement le dernier film que j'ai vu.
Vous l'emmenez pas?
Non, elle est encore un peu petite.
Ah, parce que Gislain Fontanus, notre réalisateur, lui, ne se gêne pas.
Bientôt la Reine des Neiges.
Pour finir, Mathieu, votre choix musique du moment, c'est Rich Niggas de l'américain J. Cole. C'est du rap américain, donc.
Ouais, il fait partie. Je suis impatient d'écouter, comme tout le monde, l'album de Kendrick Lamar qui arrive, mais ils sont, pour moi, à peu près au même niveau dans un rap un peu social et engagé.
Uh-huh. 13 mai, hein, Kendrick Lamar, je crois.
Ouais, 13 mai, Kendrick Lamar. Et en attendant, c'est J. Cole et c'est sur France Inter, parce que c'est le choix de notre invité, Mathieu Palin.
Hey,
cause I ain't never had a lot, damn it. Who you had to kill, who you had to rob, who you had to fuck just to make it to the top, damn it. Or maybe that's daddy money, escalator, no ladder money, escalate new caddy money. Worst fear going broke cause I'm bad with money. Crooked smile, nigga, mama never had the money. Damn, I ain't tripping, nigga Jordan, I ain't pipping. Yeah, up the steps, I ain't slipping. Tears, blood, sweat, I ain't crippin'. Here's a song you can sing along with when you down on some, let you know you ain't alone shit. When your mama ain't at home cause she got a second job, delivering pizzas, you think she out of getting robbed. Please God, watch her, I know how niggas do. Half cracker, but a nigga too. Talking all that shit about your step pops, how he was a dog, now look at you. I ain't bad as that nigga. Plus, dog, I'm a grown man now, I ain't mad at that nigga. But if a plane crash and it only killed his lame ass, I'll be glad as that nigga. Nigga, did K dirty, now it's back to broke. Refund checks, use that to float. Mama gets depressed, falls in love with the next maniac on crack, use that to cope. Make a nigga smoke a whole sack of dope. Writing rhymes, trying to bring back the hope. Try to ride the storm out and crash the boat. Could've drowned, but I grabbed the rope. And there go you. And there go you. And there go you. Selling me dreams and telling me things you knew. And there go you. And there go you. And there go you. Selling me dreams and telling me things you knew. Saying, you got what I want. I got what you need. How much for your soul? And how much for your soul? And you got what I want. I got what you need. Yeah. How much for your soul? And how much for your soul? And I hate rich niggas. God damn it, cause I ain't never had a lot, damn it. Niggas can't front on the flows you got, but every fucking verse, how much dough you got, homie. Don't quit now, hit my shit and try switch now. Know you felt the shit just now, know you felt the shit just now, huh? Ain't there more to you? Don't it ever get born to you? I realize deep down you a coward getting high off of power, fucking more to you. Saw through you and it made me ashamed that I played the game. Not for more money like Damon Wayans. Wanted the respect, but it came with fame. I just wanted love, but this ain't the same. I took a train down memory lane and watched Lil Jermaine do his thing before he made a name. It's like Sony signed Basquiat, he gave it all he got, and now the nigga don't paint the same. Damn, I guess he can't complain. All the money that be raining in. Spent 100,000 for the chain again. Think of old school niggas like Dane to Dane. Probably kill for another claim to fame. My brain is saying, yeah, nigga, at least he ain't insane. At least he ain't insane. You ain't crazy, motherfucker, you just afraid to change. Damn, that's new. Maybe that's true. But listen here, I got a bigger fear. One day that I become you and I become lost and I become heartless. And none from all the menages. Just one bitch don't feel the same no more. And Henny don't really kill the pain no more. Now I'm Cobain with a shotgun aimed in my brain cause I can't maintain no more. Tad bit extreme, I know. Money can't save your soul. But there go you. There go you. There go you. Selling me dreams and telling me things you know. And there go you. And there go you. And there go you, telling me dreams and telling me things you know. Say, you got what I want, I got what you need. How much for your soul, and how much for your soul, and you got what I want, I got what you need. How much for your soul, and how much for your soul, and
Call Rich Niggas. Merci Mathieu Palin.
Merci.
Merci pour ce choix et merci pour votre présence. Je rappelle que votre livre Ne t'arrête pas de courir est disponible chez l'Iconoclaste et que c'est vraiment un livre absolument passionnant et remarquable.
Merci
voilà,
beaucoup.
Tout à fait indispensable. Merci Charline.
Merci à vous.
À demain et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Julien Dumont qui était à la technique aujourd'hui. Demain dans Pop Pop Pop, Louise Moati, Raphaël Meltz et Simon Roussin viennent nous parler de leur BD Des Vivants. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop.